épisode
Trip
avec
Ulamir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Évasion. Nous interrompons les programmes classiques de la station pour vous proposer une émission spéciale appelée Road Trip avec Ulamir. Une émission réalisée par des jeunes de Haute-Cornouaille. Dans cette émission, nous vous proposons un voyage sur nos terres. Nous irons donc du côté de Châteauneuf-du-Fou, Laz, Trégorez, Saint-Goisec, Saint-Ois, Plounévé-du-Fou et Spézette. L'objectif de cette émission est de vous faire découvrir des personnes qui animent notre territoire. Chacun notre tour, nous vous proposerons des rencontres. Nous irons découvrir un maraîcher bio du côté de Laz, nous discuterons avec le directeur de la médiathèque de Plounévé-du-Fou, et en fin d'émission, nous vous proposerons une interview de Monsieur le maire de Spézette. Mais tout d'abord, Lise Marie vous présente notre première rencontre.
Merci Thibault, nous allons vous proposer la rencontre de Laurence, vétérinaire à Plounévé-du-Fou. Elle nous explique son parcours. Au milieu de nos amis les bêtes, elle a eu la gentillesse de nous recevoir dans sa clinique vétérinaire. Elle nous a accordé un moment de son temps libre. On se retrouve juste après.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, je m'appelle Laurence Léonard, je suis vétérinaire à Plounévé-du-Fou depuis 8 ans et je m'occupe essentiellement des chiens, chats et tout ce qui rentre dans la clinique.
Pourquoi avez-vous choisi d'être vétérinaire ?
Alors, je veux être vétérinaire depuis que je suis toute petite, au début parce que j'aimais bien les animaux et puis petit à petit, le côté médical m'a intéressée de plus en plus et voilà, c'est devenu une évidence pour moi.
Quelle étude faut-il faire pour être vétérinaire ?
Alors moi c'est un peu particulier parce que je suis belge, mais je vais répondre comme si j'avais été en France, donc il faut un bac S, après il y a 2 années de prépa, et puis après on intègre l'école vétérinaire, qui doit durer 5 ans je pense en France.
Depuis quand êtes-vous vétérinaire à Plounévé ?
À Plounévé ça doit faire 8 ans à peu près.
Quels animaux avez-vous l'habitude de soigner ?
Alors principalement les chiens et chats, et les lapins de plus en plus, et puis de temps en temps, j'ai un cochon d'Inde, un hamster, un oiseau ou un chinchilla, des choses un peu plus particulières.
Pratiquez-vous l'éthologie et pouvez-vous expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit ?
Alors l'éthologie, on la pratique à un niveau assez bas, on va dire un petit peu tous les jours. L'éthologie, c'est un peu le comportement des animaux en général. Voilà. Après, en chien-chat, c'est plus l'éthologie avec les propriétaires, c'est un peu particulier.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ?
C'est surtout, je pense, la diversité. Le fait que je vais pratiquer aussi bien la médecine courante, la chirurgie, et puis parfois des urgences un peu plus compliquées. Donc c'est ce côté-là. Le matin, quand on arrive, on ne sait jamais ce qu'on va avoir, et c'est ce côté-là que j'aime bien.
Vous est-il déjà arrivé de soigner des animaux qui sortent de l'ordinaire ?
Je crois que le plus marquant pour moi, ça a été une mygale, mais je ne l'ai pas touchée.
Soignez-vous les animaux de la ferme ?
Au début où j'ai travaillé, oui, j'ai fait les animaux de la ferme pendant 3-4 ans, mais au final, je me suis plus spécialisée dans les chiens-chats.
Combien y a-t-il de personnes à travailler dans le cabinet ?
Alors là, depuis le 1er janvier, on n'est plus que 3. Il y a moi comme vétérinaire et j'ai 2 assistantes.
Avez-vous peur de soigner certains animaux ?
Non, en général, pas trop. Et puis, si on a peur, l'animal le sent et c'est pire. Mais bon, il faut toujours se méfier. C'est pas vraiment peur, c'est plutôt de l'appréhension, oui.
Une question technique. Au sujet de la nourriture pour nos animaux de compagnie, j'ai entendu dire que les aliments vendus chez le vétérinaire étaient de meilleure qualité que dans les grandes surfaces.
Je ne vais pas dire non, sinon je ne vendrai jamais mes croquettes. Mais oui, c'est vrai qu'elles sont. L'étude était un petit peu plus poussée. Et par contre, elles sont plus chères parce que les aliments avec lesquels on les prépare sont plus adaptés. Et, mais bon, c'est vrai que ce n'est peut-être pas toujours à la portée de tout le monde. Mais oui, elles sont plus complètes et plus équilibrées en général, oui.
Quelles sont les maladies les plus communes pour les chiens et chats ? À quelle chose doit-on faire attention ?
Alors les plus communes, c'est un peu comme les humains en fait. C'est tout ce qui est petits virus comme des gastro ou des petits passages grippaux. Ce qui est très commun aussi, c'est tous les problèmes de peau. Donc je pense que la chose à faire le plus attention, c'est tout ce qui est parasite pour les animaux. Les puces, les tiques et les vers surtout. C'est des choses, des petites préventions qu'il faut faire et qui ne sont pas trop embêtantes à faire et c'est très important.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Notre voyage en Haute-Cornouaille continue. À la suite de l'interview de Laurence, vétérinaire à Plounévé-du-Fou, nous sommes allés à la rencontre de Maxime. Maxime est maraîcher bio à Laz. Nous avons emprunté les ribines pour rencontrer ce maraîcher passionné. Nous avons visité sa ferme. Et surtout, nous avons pu goûter quelques-unes de ses délicieuses fraises.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, je m'appelle Maxime Villemar, je suis maraîcher installé sur Laz depuis 2012.
C'est quoi la définition d'agriculture bio ?
Alors, la définition d'agriculture biologique, c'est répondre à un cahier des charges assez précis, qui est différent selon les métiers. Donc le mien stipule plusieurs choses, notamment ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse, donc issus de la chimie du pétrole, ne pas utiliser d'OGM et faire des rotations de culture lors des cultures afin d'éviter les maladies. Donc, tout un cahier des charges assez précis, et le respect de ces cahiers des charges permet d'avoir le label d'agriculture biologique.
Comment êtes-vous certain que vos légumes soient bio ?
Alors, comme je viens d'y répondre, le label bio, c'est un cahier des charges, mais ce n'est qu'un cahier des charges. Il cherche à gratifier l'agriculteur qui met des bonnes pratiques en route. On ne dit pas que le légume ne doit rien contenir de mauvais, car il y a des choses mauvaises partout. Par contre, il stipule que l'agriculteur a des bonnes pratiques. Et avec le temps, ces bonnes pratiques feront que tous les sols deviendront meilleurs.
Pourquoi avoir choisi l'agriculture biologique ? Et pourquoi à l'AS ?
Alors, pour ce qui concerne l'agriculture biologique, c'est en rapport avec mes valeurs personnelles. Donc, faire en sorte qu'on mange des légumes plus sains, avoir une terre sur laquelle on puisse vivre de manière plus respirable, aussi plus humaine. Ceci n'entre pas en compte dans le cahier des charges, cela dit. Mais ça, c'est tout un groupement de valeurs auquel j'adhère en tant que personne, que j'ai essayé de rapporter à ma ferme. Et pourquoi là ? C'est un concours de circonstances, en fait. Il y avait des terres familiales disponibles que j'ai pu acquérir, donc je me suis installé ici.
Est-ce que vous avez des élevages d'animaux ?
Non, je ne fais pas d'animaux. Là, je consacre la totalité de mon temps aux légumes et à la commercialisation des légumes, vu que je fais de la vente directe, ce qui me prend plus de la moitié de mon temps de travail dans la semaine. Du coup, ajouter à cela des animaux serait très chronophage. Sachant qu'il faut y être tous les jours aux animaux.
Que cultivez-vous comme légumes ?
Alors, la liste des légumes est assez longue. J'essaye d'avoir des légumes disponibles sur toute l'année, en fonction des saisons. Donc, par exemple, en ce moment, c'est le printemps. J'ai de l'oignon blanc, de la carotte primeur, de la betterave primeur. Je vais bientôt avoir des pommes de terre primeur, beaucoup de salades, épinards, des légumes feuilles en général. Quand on arrivera plus dans l'été, il y aura plus de légumes fruits, comme des courgettes, des poivrons, des aubergines, des tomates. Arrivé à l'automne, arrive plus de racines. Tout ce qui est pommes de terre, carottes, navets, topinambours. Pour l'hiver, il y a tous les légumes de conservation en terre, que sont les poireaux, les choux. Bon, les salades, on les a toute l'année. Plus d'autres petits légumes, comme le radis, qui peut venir toute l'année aussi. Tout dépend de la saison et de la... Voilà, j'essaye d'échelonner. Donc en tout, ça me fait à peu près une cinquantaine de légumes, sans parler des variétés.
Comment et à qui vendez-vous vos produits ?
Donc je fais le marché deux fois par semaine, à Châteauneuf et à Corée. Je vends directement aux particuliers qui viennent m'acheter sur le marché. Là, je développe des paniers pour pouvoir livrer les particuliers chez eux ou à leur entreprise. Donc c'est vraiment du producteur au consommateur. Ça permet d'augmenter ma marge. Il permet de pouvoir en vivre.
Quelle étude faut-il faire pour être maraîcher ?
Comme pour beaucoup de travail à son propre compte, c'est pas forcément les études qui priment en premier lieu, c'est surtout la motivation, l'intérêt que l'on porte au travail, quel qu'il soit. En ce qui me concerne, j'ai passé un BEP en travaux forestiers. J'ai passé un bac littéraire et juste avant de m'installer, par contre, j'ai passé un diplôme d'aptitude pour tenir une exploitation agricole. Ce n'est pas obligatoire pour avoir une exploitation, par contre, c'est obligatoire pour bénéficier des aides à l'installation, ce qui m'a bien aidé aussi.
Aimez-vous votre métier ? N'est-ce pas trop difficile ?
Oui, j'aime beaucoup mon métier. Je pense que j'ai vraiment choisi un métier qui me correspondait et qui me plaisait. Pour ce qui est de la difficulté, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais en m'installant. Cela dit, des choses se font au fur et à mesure et s'améliorent avec le temps. On travaille de plus en plus performant, on va dire. Donc je me fatigue aussi de moins en moins dans mon travail. J'arrive à m'organiser de mieux en mieux, ce qui me permet de gagner de plus en plus de temps. Voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine.
Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions.
Et si on faisait une pause musicale ? On va écouter le groupe FG et qui s'écrit H-E-F-G. Créé en 2015, ce groupe est un trio et connaît bien le pays de Châteauneuf et ses environs. Vous pouvez les retrouver au mois de mai du côté de Brest et cet été à Crozon et à Ouessant. On écoute le titre « Mon frère ».
À l'écoute de Radio Évasion sur le 100.4 de la bande FM ou sur radioévasion.net. Vous venez d'écouter le titre « Mon frère » du groupe FG. La suite de votre émission « Road Trip avec Lulamir » se poursuit. L'interview qui va suivre vous emmène à Plonévé-du-Fou. Alain est directeur de la médiathèque de Plonévé-du-Fou. Il nous explique l'utilité de ce service public. On se retrouve juste après.
Bonjour, on avait des questions à propos de la médiathèque de Plonévé-du-Fou. Alors, comment fonctionne la médiathèque ?
Donc, cette bibliothèque, elle fonctionne à la fois comme toutes les bibliothèques, mais elle est un petit peu différente. Mais vous, vous la connaissez parce que vous êtes déjà venu. Donc, on est à la fois ouvert au public, mais en même temps, on est, puisqu'on est une bibliothèque départementale, on est une bibliothèque pour les bibliothèques des communes autour de Plonévé, c'est-à-dire en gros de Carré à Plébin. Et de Welgoat jusqu'au sud, à qu'est-ce qu'il y a au sud, Trégourez et Corée aussi, par exemple. Voilà, on a un réseau de 36 communes, donc une bibliothèque pour les bibliothèques, et en même temps, on est ouvert au public, et donc vous êtes tous les bienvenus, et je crois que vous venez assez régulièrement, le mercredi, le vendredi et le samedi.
Quelle activité préparez-vous à la médiathèque ?
Alors, comme dans toutes les bibliothèques, on a des activités diverses. On propose différents services. Donc, le plus important que vous connaissez, c'est le prêt de documents. Donc, on peut venir ici pour emprunter des livres, des BD, des romans, tout ce qu'on veut. Et puis aussi des CD, et puis aussi des DVD, et puis aussi des magazines. Et puis, par ailleurs, on peut venir ici de façon libre et gratuite. Par parenthèse, l'abonnement est aussi gratuit. On peut venir ici pour regarder un film, écouter un disque, aller sur Internet, faire des ateliers quelquefois mis en place avec des partenaires comme l'ULAMIR par exemple ou d'autres. Atelier de BD, atelier de dessin, on a un atelier, ça va peut-être moins vous intéresser encore que, un atelier de broderie et de couture à la fin du mois. Des contes aussi, des soirées cinéma. Et on a un film tout à l'heure, là, à 16h30 je crois. Voilà, donc on peut faire plein de choses, comme dans aujourd'hui plein de médiathèques. Hein. On a mis en place, notamment avec l'ULAMIR et avec d'autres partenaires, une action qui s'appelle Facile à lire, qui est destinée à différents publics qui fréquentent peu ou pas du tout les bibliothèques, ou en tout cas qui lisent peu ou pas du tout, ou qui n'ont pas d'accès ou pas du tout à la culture. Et donc c'est un dispositif simplement à la fois constitué de sélections de livres, il y a quelques disques aussi, qui sont déposés dans des endroits divers dans le département. Ça peut être dans un bistrot, dans un salon de coiffure, ça peut être dans un centre social, ça peut être dans les locaux de l'ULAMIR par exemple, ou dans d'autres endroits comme ça, avec des accès libres et gratuits.
Quand et pourquoi la médiathèque a-t-elle été construite ?
Alors cette médiathèque, c'est le résultat d'un long plan d'une dizaine d'années, mené par le département. Ça remplace ce système de médiathèque donc départementale. Il y en a quatre dans le Finistère, Quimper, Brest, Saint-Divy, Morlaix, Sainte-Sève et puis Plonévé. Donc c'est la quatrième et la dernière. Et c'est un système qui se substitue à, peut-être vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais il y en a d'autres peut-être qui ont connu les bibliobus. Les bibliobus, c'était des bus avec des bouquins qui se promenaient de village en village pour porter au plus grand nombre des éléments de lecture et de culture. Et donc les bibliobus petit à petit disparaissent au profit de ce type d'antenne. L'idée est dans le Finistère que chaque commune soit à moins d'une demi-heure d'une antenne. Donc c'est pour ça qu'il y en a quatre sur le Finistère. L'intérêt pour les communes, pour les bibliothèques des communes, donc encore une fois qu'on approvisionne, eh ben, c'est qu'au lieu d'avoir, comme dans le bibliobus, un choix de 4000 alors livres, CD, DVD, magazines, etc. Eh ben, ici, il y en a 40 000. Donc évidemment, il y en a un peu plus et donc a priori un peu plus de choix. Donc ça, c'est le rôle principal. Et puis les autres services, c'est la fourniture d'expositions, toujours pour les bibliothèques des communes. On fait aussi des formations pour les personnels des bibliothèques des communes, initiation, découverte, etc. Et puis on fournit aussi, puisque c'est bien le moins de s'adapter aux pratiques d'aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les vôtres, si vous lisez sur votre téléphone ou sur des tablettes ou sur autre chose, mais on fournit beaucoup de choses sur le site internet de la bibliothèque du Finistère, qui s'appelle Le Portail. Voilà. Mais ça permet de 24 heures sur 24 d'avoir accès à des films, à de la musique, à des bouquins, à des magazines. Et ça, c'est des services qui sont proposés en dehors ou en plus des heures d'ouverture de la bibliothèque.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Eh bien, merci à vous.
Lors de notre visite à la médiathèque de Plonévé-du-Fou, Charlotte, l'animatrice de la ludothèque du centre social ULAMIR Aulne, était présente. J'ai profité qu'elle soit là pour lui poser quelques questions afin de nous présenter la ludothèque.
Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, alors je m'appelle Charlotte, je suis animatrice dans l'association ULAMIR Aulne et animatrice ludothèque. Voilà.
Qu'est-ce la ludothèque ?
Donc la ludothèque, c'est un outil culturel autour du jeu de société, des jouets, voilà, qui permet un peu de resserrer un peu les liens entre les gens et de prendre le temps d'être ensemble.
Quel genre de jeu présentez-vous ?
Alors il y a toutes sortes de jeux. Il y a des jeux de rôle, des jeux de stratégie. Voilà, ça va être sur des jeux de plateau, il y a des jeux avec des plateaux, des jeux où il y aura des cartes, des pions. Ça va être des jouets pour les plus petits qui sont qu'au stade d'éveil. Ça peut être du déguisement aussi.
Quel jour venez-vous ?
Alors sur la médiathèque, du coup, c'est le mercredi après-midi, pendant les vacances scolaires, de 14h à 16h.
Quel jeu a le plus de succès ?
Pour les joueurs, ce sont des enfants de 6 à 10 ans, parce que je fais aussi du jeu de société sur l'étape dans les écoles des différentes communes d'Haute Cornouaille. Donc les jeux qui ont plus de succès, c'est le Double, le Jungle Speed, le Uno.
Pourquoi mettons des jeux dans la médiathèque ?
La médiathèque, c'est un endroit où il y a du passage. Il y a beaucoup de monde qui s'y présente. On a remarqué qu'il y avait du passage le mercredi après-midi. Et le jeu, c'est aussi intergénérationnel. Et justement, la médiathèque, c'est aussi intergénérationnel. Donc, on s'est dit que c'était un bon endroit pour mêler le livre et le jeu en même temps.
Avant de terminer cette émission, nous allons écouter l'interview de Monsieur le maire de Spézet. Une interview réalisée par Ciliane et Thibault.
Nous sommes avec Gilbert Nigin, Monsieur le maire de Spézet. Nous sommes dans les locaux de la mairie. Et Monsieur le maire a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Monsieur le maire.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Oui, bien voilà, moi je suis le maire de la commune depuis 2008, c'est-à-dire que c'est mon deuxième mandat. Et donc je fais partie d'un conseil municipal qui fait que nous sommes à 19 membres du conseil municipal.
En quoi consiste votre fonction de maire ?
C'est une fonction qui est assez particulière parce que c'est beaucoup de choses. Le maire il est président, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de commissions dans la commune, que ce soit les commissions de l'urbanisme, de la voirie, du social, des commissions administratives, du personnel et tout ça. Donc le maire est le président de tout ça et puis... pour présider toutes les réunions qui a lieu lorsqu'on a affaire à une commission, quelle qu'elle soit.
Quelles sont les tâches les plus régulières ?
Ce qui est le plus régulier, c'est ce qui est le plus classique, c'est-à-dire tout ce qui est l'urbanisme. Alors l'urbanisme, c'est la construction, c'est la rénovation, c'est l'extension des bâtiments. Donc c'est par rapport aux demandes qui arrivent en mairie pour que nous puissions voir un petit peu tous ces projets-là, d'une part, et puis d'autre part, la voirie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les routes où il y a toujours du travail, et sur la route et sur aussi les fossés à côté, donc les bas-côtés. Voilà.
Pensez-vous qu'il est possible d'exercer les fonctions de maire en ayant un métier ?
À l'heure actuelle, c'est difficile. Je pense que même c'est déconseillé parce qu'effectivement, le travail de maire à l'heure actuelle, c'est pratiquement un travail en permanence, c'est tout le temps, sachant qu'il y a quand même non seulement le maire et le maire de la commune, d'une part, c'est un fait, mais il fait partie aussi de la communauté de communes de Haute Cornouaille, pour nous, où il y a également beaucoup de réunions. Et les réunions, c'est très souvent, j'ai 3 ou 4 réunions dans la semaine, donc c'est de 5h ou de 6h jusqu'à 20h ou 29h ou 21h, un truc comme ça. Donc il vaut mieux être en retraite qu'en activité autrement.
Quel est le budget d'une commune comme Spézet et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce budget ?
Il y a deux budgets, il y a le budget de fonctionnement d'abord et le budget d'investissement. Donc le budget de fonctionnement, c'est en fait tout ce qui concerne le fonctionnement habituel, soit tous les salaires, tous les problèmes qui ont lieu de matériaux, de travaux qui ont lieu tous les jours sur la commune. Donc c'est 1 million qui, chez nous, c'est à peu près 1,6 million, 1,7 million à peu près en fonctionnement. Et puis en investissement, après, c'est un peu différent, c'est en fonction des projets qui sont faits. Donc là, on doit être à peu près 700 000, 900 000 euros d'investissement.
Est-il difficile d'établir des priorités ?
C'est vrai que c'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est pas facile, la priorité. On sait qu'il y a beaucoup de priorités, seulement il faut toujours avoir une priorité dans la priorité. Donc pour nous, c'est le plus important de ce qu'on doit faire pour nous. Mais ça, par contre, c'est une décision qui relève de la commune, de la mairie. Donc c'est le maire, avec aussi les adjoints, bien sûr, qui fait en sorte qu'on puisse prendre une décision qui, pour nous, c'est la meilleure des priorités. Voilà.
Comment ce budget se renouvelle-t-il ?
Le budget, d'abord, il est fait en début d'année. Là, on vient de le faire pour le budget 2017. Disons qu'en fonction de faire un budget prévisionnel pour l'année 2017, on fait d'abord les comptes administratifs, c'est-à-dire que par rapport au budget qu'on fait, on fait en début d'année, en fin d'année, on fait le bilan pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme dépenses, qu'est-ce qu'il y a eu comme recettes, est-ce qu'on est dans les prévisions qui étaient prévues, tout ça. Donc tout ça, on fait ça d'abord. Et à l'issue de tout ça, on refait aussi un nouveau budget prévisionnel qui s'appuie aussi bien sûr sur ce qu'il y avait auparavant, mais aussi en fonction des investissements qu'on doit faire, quoi, des nouveaux projets qui sont à mettre en route pour l'année en cours.
Travaillez-vous à plusieurs ? Comment se compose votre équipe ?
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de commissions, mais en fait, il y a des adjoints. Il y a un adjoint à la voirie, j'ai un adjoint à l'urbanisme, j'ai un adjoint aux associations, il y a un adjoint au centre communal d'action sociale, donc c'est le pôle social. Donc, répartis à travers ces quatre adjoints-là, mettent en marche des commissions en fonction des projets qui doivent se faire sur la commune.
Pourquoi avez-vous choisi d'être maire ?
Moi, c'est un peu particulier parce que c'est un mauvais cas que je déconseille à tout le monde. En fait, j'étais en retraite j'avais quelque part une obsession, c'est de savoir comment que ça fonctionnait une mairie. Et donc, à partir de là, je me suis présenté comme maire sans avoir été auparavant, je dis bien, conseiller municipal. Ce que je déconseille à tout le monde, hein, parce que c'est vraiment très dur après, quoi.
Nous avons vu qu'à Spézette, la population est passée de près de 4000 habitants à 1800. Pourquoi la population diminue-t-elle ?
Oui, effectivement, il y avait... Enfin, 4000, ça fait déjà... Il y a pas mal d'années de ça, hein, parce que C'est une commune où il y avait beaucoup de villages, parce que d'abord, c'est une commune très étendue, hein, très, très étendue. Et il y avait pas mal de villages avec beaucoup de grandes familles, des familles de 10, 14 enfants, 15 enfants. Or, aujourd'hui, la commune est toujours aussi étendue. Malheureusement, dans les familles, c'est plus 10 enfants, c'est plus 5, c'est 2, des fois c'est 1. Donc, c'est vrai que les naissances ont diminué beaucoup. Et donc, à ce titre-là, la population diminue automatiquement. Ouais.
Vous considérez-vous comme un maire sans étiquette ?
Oui, c'est-à-dire que l'équipe que j'ai là, c'est une équipe sans étiquette. Hein. C'est mon équipe, c'est une équipe sans étiquette. C'est-à-dire que tout autour de cette table, il y a toutes les sensibilités politiques. C'est tout à fait normal. Il faut respecter le choix des gens. Néanmoins, il y a une obsession ici. Il n'y a jamais eu un mot de politique au conseil municipal. Jamais. Ça, c'est interdit, absolument interdit. Et j'interdis là-dessus. Si quelqu'un veut intervenir là-dessus, j'interviens tout de suite. Quoi. Voilà.
Quels sont les grands événements qui rythment la vie de Spézette ?
Ce qu'il y a comme grands événements sur la commune, c'est qu'il y a beaucoup d'associations. C'est une commune où il y a beaucoup d'associations, et des associations qui sont exactement très performantes, on peut le dire. Il y a notamment le Cercle Celtique. Le Cercle Celtique qui est champion de Bretagne 3 fois, qui a une reine de Cornouailles encore cette année, c'est la 5e reine. On a le foot, bien sûr, il n'est pas plus en vue de Spézette. On a aussi le Gouren avec le Gouren, la lutte bretonne, hein, parce qu'on a aussi deux championnes d'Europe, deux sœurs en plus, championne et vice-championne. On a le Bagad et on a également une école de musique communautaire, hein, qui rayonne sur tout le territoire de Haute-Cornouailles et qui fait qu'il y a toujours des fêtes sur la commune pour ceci et cela.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Écoutez, si c'est pas plus long que ça, je vous remercie à mon tour et je vous souhaite une bonne continuation et puis de bons projets aussi à vous tous. Voilà, merci à vous tous.
Et voilà, cette émission se termine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission que nous avons préparée. Nous voulions remercier Laurence, vétérinaire, Maxime, maraîcher, Alain, directeur de la médiathèque, Charlotte, animatrice ludothèque à Lulamière. Et enfin, Gilbert, maire de Spézette. Cette émission vous a été présentée par
Lise-Marie,
Ludivine,
Thibaut
et moi-même Cylienne. Nous vous souhaitons une très bonne fin d'après-midi à l'écoute de Radio Évasion. Et dans quelques instants, vous retrouverez votre émission hebdomadaire Le Bistrot des Copains. Sancho reçoit aujourd'hui Eric et Marie Pellerin du festival Les Originales à Morlaix, un festival dédié à la chanson française. Très bonne journée à tous.